La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation des choses qu'on ne voit pas.
Bonjour à tous. Êtes-vous prêts à rester ici jusqu'à 13h? Je pense pas. Donc j'essaierai d'être court dans le temps qui m'est imparti. Avez-vous remarqué que ces deux textes se trouvent dans le chapitre 18? Matthieu 18, Luc 18. Avez-vous remarqué aussi que ces deux textes reprennent presque mot pour mot, dans la conclusion, dans les derniers versets, les mêmes choses à propos des enfants? Mais plus qu'à propos des enfants, c'est à propos de ceux qui doivent ressembler à des enfants. Mais même si ces deux textes disent presque tous deux les mêmes choses, les circonstances qui les entourent ne sont pas tout à fait les mêmes. Dans Matthieu 18, Jésus, les circonstances étaient concernant les plus grands. Il y avait une discussion parmi les disciples au sujet de qui était le plus grand parmi eux, qui devait être considéré le plus grand dans le royaume futur de Jésus. Il y avait aussi, Jésus a parlé aussi de la façon de pardonner dans Matthieu 18. Combien de fois nous devons pardonner à ceux qui nous font du tort. Dans le chapitre 18 de Luc, il est question aussi de ce qui se passe pendant ce voyage de Jésus à Jérusalem, ce dernier voyage de Jésus. Pendant ce voyage de Jésus à Jérusalem, ce dernier voyage de Jésus à Jérusalem. Il est en train de monter, je dirais, à Jérusalem avec les disciples. Et là aussi, dans le chapitre de Luc, il est rapporté la discussion à propos du plus grand, du royaume des cieux. Mais dans le chapitre 18 de Luc, Luc commence, je dirais, son récit de façon différente. Il raconte deux paraboles, il relate deux paraboles racontées par Jésus. La parabole du juge inique et de la veuve. Puis il raconte la parabole du publicain et du pharisien. Et ensuite seulement, il y a ce passage sur les enfants. Après ce passage sur les enfants, il y a deux événements qui sont racontés. C'est l'histoire du jeune homme, de l'homme riche, certains disent souvent du jeune homme riche, et la guérison de l'aveugle Bartimée. Jésus sait qu'il se dirige vers Jérusalem où des événements terribles l'attendent. Pendant le trajet, il essaie de parler à ses disciples de ses souffrances. Par deux fois, trois fois même, il leur dit qu'il va monter à Jérusalem, qu'il va souffrir et que des choses terribles vont lui arriver, et à eux aussi. Mais les disciples ne sont pas prêts à entendre ce que Jésus a dit, ce que Jésus a à leur dire. Ils ne sont pas du tout dans cette perspective de l'abandon de ce royaume qu'il désire tant et qui va peut-être bientôt arriver, qui est très proche. L'entrée prochaine de Jésus à Jérusalem, racontée par Luc au chapitre 19, semblerait leur donner raison. Mais pourtant, Jésus veut attirer le regard sur autre chose. Il est vrai que j'aurais pu intituler cette méditation, je l'ai appelé, ce titre n'est pas affiché, Dieu et ses petits-enfants. J'aurais pu aussi intituler Jésus et ses petits-enfants, car Jésus dit, celui qui a vu le Père m'a vu. Moi et le Père, nous sommes un. Donc ça pourrait être bien Dieu et ses petits-enfants ou Jésus et ses petits-enfants. Vous savez, je vais vous demander de me permettre une digression. D'abord. Ce matin, je crois que c'est Pedro qui est l'ancien de service et j'avais pensé qu'il serait là. Je suis désolé qu'ils sont malades, j'espère qu'il se rétablira très vite. En fait, permettez-moi dans cette digression, pardon, de rebondir un petit peu sur sa prédication de samedi dernier. Je ne sais pas pour ceux qui étaient là. Il a parlé de la fête de... ou de... Et oui, mais moi, je dis non, la fête de Noël arrive à grands pas. C'est vrai, c'est une occasion, c'est une circonstance que particulièrement attendue par les enfants, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est la période des cadeaux. c'est la période des cadeaux. C'est un moment qu'ils attendent avec joie parce qu'ils savent que les parents se mettront en quatre pour leur offrir quelque chose qui leur fera plaisir. D'accord ? Mais ces instants de Noël, que l'on soit d'accord ou pas, le fait d'en parler ici, d'appeler ça la fête de Noël, qu'on soit d'accord ou pas avec la célébration de Noël, il n'en reste pas moins vrai que ces instants sont des instants particuliers qui permettent à des familles de se retrouver, les parents, les grands-parents, quelquefois même les arrière-grands-parents, et de partager des moments particuliers. Donc, si vous voulez, c'est l'occasion pour eux de, un peu comme nous sommes, nous dans cette salle, entre différentes générations, avec les enfants, les moins enfants qui sont à la galerie, un peu plus âgés, c'est l'occasion de passer des moments particuliers ensemble. C'est le moment de nous réjouir, d'être dans la joie, dans le partage, dans l'amour de Dieu. Alors imaginez la joie de Dieu quand nous sommes là. Il est parmi nous puisqu'il a dit que là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc Jésus est au milieu de nous, il est avec nous. Et il aime ces instants où on se retrouve en famille, famille spirituelle, mais aussi famille, je dirais, physique, pour partager des instants et des rencontres, des souvenirs, des échanges particuliers. Vous savez, le but suprême de Dieu, c'est de réunir toute sa famille, aussi bien la famille terrestre que la famille céleste. Un jour, nous serons toute sa famille, aussi bien la famille terrestre que la famille céleste. Un jour, nous serons tous ensemble avec Dieu. Vous savez, Laurent a dit tout à l'heure que je suis ancien attaché au MAE. Et quand j'ai su que j'avais cette prédication, j'ai cherché avec mon épouse quel sujet on pourrait bien présenter au début. Elle m'a dit, ce serait bien que tu parles d'éducation. Je dis d'accord, l'éducation c'est quelque chose qui m'intéresse personnellement. Et j'espère avoir l'occasion d'en parler un peu plus, soit du haut de cette chaire, soit dans d'autres circonstances. Mais plus je cherchais des éléments sur l'éducation, et plus je me rendais compte que je n'étais pas encore prêt à parler vraiment d'éducation. Donc, ne déplaise à mon épouse, je parlerai d'un sujet un petit peu différent, je le sais déjà. Mais je sais qu'un jour, on en reviendra là-dessus, où l'éducation que nous donnons à nos enfants et la façon de la donner. Il y a tellement, tellement à dire. Donc, aujourd'hui, je vous parle plutôt de ce texte, de Matthieu 18 et de Luc. Et de Luc 18. Vous vous direz, mais peut-être qu'il y a une éducation. Pas vraiment. Mais Jésus parle dans ces deux textes de l'enfant. Alors je me suis posé la question, quel est le fil conducteur entre tous ces événements racontés dans le chapitre 18 de Matthieu et dans le chapitre 18 de Luc? Il semble tellement disjoint. Qu'est-ce qu'il est dit? En relisant plusieurs fois ce chapitre, moi j'ai trouvé un fil conducteur, je ne sais pas, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est celui-là que j'ai trouvé sortant, je dirais, de tous ces éléments. C'est, il est question du royaume de Dieu et de ceux qui sont appelés à y entrer. Ceux qui sont appelés à y entrer, il leur est ordonné d'être comme des enfants. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il y a un message caché? Est-ce que c'était clair pour ceux qui entendaient ce message de Jésus à cette époque et à nous à qui ce message est parvenu jusqu'au 21e siècle? Où Jésus était-il? Pensait-il plus tard que l'Esprit Saint allait éclairer ses disciples et leur montrer réellement ce qu'il voulait dire? Pourquoi? Qu'est-ce? Donc, deux paraboles racontées par Luc. Et deux événements aussi racontés par lui. Et entre ces deux paraboles, ce que dit Jésus sur les enfants. Ce matin, je pense que nous n'aurons pas beaucoup de temps pour voir tout le chapitre. Nous verrons probablement la première parabole. Nous essaierons de regarder en détail ce qui est raconté et le message qui est caché, qui est donné dans cette parabole par Jésus. Alors, comme je disais tout à l'heure, alors que Jésus monte à Jérusalem, ou des événements à temps terribles, il sait que ses disciples vont avoir besoin d'éclaircissement, Il sait qu'il devra imprégner dans leur esprit de façon définitive, j'espère, l'image de Dieu et de sa relation avec les êtres humains, avec eux, ses disciples. Prenons le texte de Luc 18, au verset 31 à 34. Jésus sait que les circonstances sont difficiles pour les disciples. Il est dit, Jésus prit les 12 apôtres avec lui et leur dit, écoutez, nous montons à Jérusalem et tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l'homme va arriver. En effet, on va le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui, ils l'insulteront, ils cracheront sur lui, le frapperont de coups de fouet, puis ils le feront mourir et le troisième jour, il se relèvera de la mort. Mais le verset 34 est particulièrement instructif. Mais les disciples ne comprennent rien. Pour eux, ces paroles ne sont pas claires et ils ne savent pas ce que Jésus veut dire. Je lisais dans la version de la Bible, parole de vie. J'ai dit tout à l'heure que par deux fois, même trois, Jésus a essayé de faire comprendre à ses disciples que les événements allaient arriver, qu'il allait mourir et qu'il les susciterait plus tard. Et les disciples ne réagissent pas, ils ne comprennent pas. Eux, ils sont tout préoccupés par leur future position sociale, leur future position politique dans le royaume qui va arriver. Quand Jésus parle à ses disciples de ses souffrances, son regard va encore même plus loin que sa mort immédiate, prochaine. Son regard va au-delà, jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cela qu'il leur dit, ce que vous trouvez au chapitre, au même chapitre, au verset 8, à la fin du verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» C'est dans cette perspective de la fin et des difficultés que Jésus veut inculquer une attitude positive, de confiance en Dieu, de victoire en toutes circonstances. C'est pour cela qu'il raconte cette parabole, cette première parabole. Jésus la raconte pour inviter ses disciples à entrer en communion avec Dieu et à bénéficier de la prière. Je suis persuadé que beaucoup d'enfants de Dieu, petits ou plus grands, parmi nous, quelquefois se posent des questions suivantes. Cela sert-il à quelque chose de dire ses problèmes à Dieu? Dieu n'est-il pas trop occupé pour s'occuper de mes problèmes? Dieu n'est-il pas trop occupé pour s'occuper de mes problèmes, de mes demandes? Dieu n'est-il pas trop loin, au centre de l'univers infini, pour entendre nos prières insignifiantes? N'est-ce pas prétentieux, voire ridicule, que de l'importuner avec nos demandes? Pour Emmanuel, Jésus, donc Dieu avec nous, il était important d'éclaircir ce point. Luc commence son récit en introduisant la parabole par cette phrase. Il leur disait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser. Alors la parabole dit ceci. Il y avait dans cette ville une veuve et une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre mon adversaire. » Pendant longtemps, il ne voulut pas, mais ensuite il se dit « Bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je vais lui rendre justice de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Le Seigneur ajoute « Entendez ce que dit ce juge injuste. » Dieu ne ferait-il pas justice à ceux qu'il choisit alors qu'il crie vers lui jour et nuit? C'est vrai, des histoires comme ça, il en existe beaucoup. Pas seulement dans la littérature. De nos jours, cette femme veuve, à l'époque, je dirais, veuve de l'époque, c'est-à-dire une personne touchée par un drame personnel, un mort, cette femme est dans une situation particulière. C'est vrai que de nos jours, ce n'est pas tout à fait la même chose pour les veuves, n'est-ce pas? Dans certaines presses, on peut lire que être veuve est une situation plus émouvante que tragique. Il existe des veuves joyeuses,
belle, célèbre, et dont le veuvage, ne paraît pas du tout être quelque chose de compliqué. Mais remettez-vous à l'époque de Jésus. Les veuves, et depuis l'Ancien Testament jusqu'à l'époque de Jésus, les veuves étaient une partie de la population particulièrement défavorisée. Si elles n'avaient pas de famille quand leur mari était parti pour les aider, elles étaient pratiquement vouées à une misère certaine. Alors imaginez l'état de cette veuve à l'époque de Jésus de la parabole. Et pour comble de malheur, non seulement elle est veuve, donc touchée par un drame, dans une situation difficile, elle a un adversaire. Qui est cet adversaire? La parabole ne le dit pas. Mais ce que dit la parabole, c'est que chaque jour, régulièrement, elle venait voir le juge pour qu'il lui rende partie, qu'il lui rende justice de cette partie adverse. C'était peut-être quelqu'un qu'elle hébergeait, qui ne lui payait pas son loyer. Ou peut-être quelqu'un qui avait racheté la propriété, qui ne payait pas son loyer. Ou peut-être quelqu'un qui avait racheté la propriété qu'elle avait eue avec son mari et qui n'avait jamais payé cette propriété. Peu importe, c'est pas important. C'est pas ce que Jésus veut souligner. En plus, ce que Jésus veut dire, c'est que cette veuve ne pouvait rien contre son adversaire directement. Et c'est pour ça qu'elle allait chaque jour supplier ce juge, « Mais rends-moi justice, car tu sais que ma situation est difficile. » Elle n'avait personne pour la défendre, ni famille, ni secours. Pas de secours, excusez-moi. Pas de secours pouvant venir d'un service social. Elle ne pouvait pas toucher de pension de réversion du service social comme nos deux jours. Elle était bien toute seule. Elle n'avait, je dirais, presque aucune chance contre ce juge, qui était plutôt une véritable canaille. Il était plus dans l'arbitraire, ce juge, que dans l'arbitre. On se demande, il ressemblait plus à, je dirais, un shérif corrompu du cinéma noir américain qu'à un juge tel qu'on pouvait s'attendre à les voir en Israël. On se demande même comment de tels personnages, est-ce qu'un tel personnage existait réellement, et s'il existe, comment on peut le supporter? Mais la veuve ne s'avoue pas vaincue, quelle que soit l'attitude du juge. Elle sait qu'elle doit avoir justice, qu'elle doit avoir gain de cause. « Rends-moi justice de ma partie adverse », continue-t-elle de supplier. « Cette femme est très pauvre. Pourquoi me déranger? Me dérangerais-je à la traiter son affaire ?» se dit le juge. « Je n'ai aucun bénéfice financier à en tirer. Cela ne me créera que des maux de tête et puis des complications. » Car je devrais jouer le rôle de médiateur entre deux adversaires et je n'ai pas très envie. Pourtant, c'est son rôle. Non, je n'ai pas envie de me prendre la tête avec tout ça. Renvoyons cette affaire au calende grec, à plus tard, on verra. Elle finira par se lasser. Ainsi donc raisonnait ce juge inique et probablement juge unique de la région. Comme cette veuve n'a pas de revenus et face au magistrat arbitraire, il lui faut trouver une alternative, car elle souhaite vraiment obtenir gain de cause. « Puisque je n'ai pas d'autre issue, se dit-elle, ce juge est mon unique espoir, alors je vais l'importuner. Chaque jour, j'irai la voir, où qu'il soit, dans la rue, à sa maison, à son travail, au restaurant. » Chaque jour, j'irai le voir pour lui dire « Rends-moi justice. » Et je le ferai jusqu'à ce qu'il se laisse intimider. Elle doit se dire « De toute façon, comme je n'ai rien à perdre, rien ne m'arrêtera. » C'est là que nous arrivons à la seconde partie de l'histoire. Le verset 4 et 5 du chapitre 18 dit ceci. Pendant longtemps, le juge ne veut pas entendre. Il se dit « Je ne respecte pas Dieu. » Je me moque des gens, mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer. À bout de nerfs, certainement, le juge explose. Je n'en peux plus. Je ne veux plus la voir et ne veux plus l'entendre de toute ma vie. Elle va me rendre fou. que quelqu'un me débarrasse du dossier de cette veuve une bonne fois pour toutes. Et enfin, le calvaire de cette veuve, de cette femme, s'achève. Elle se termine par une fin heureuse. Le juge, excédé par son insistance, étudie son cas, lui rend justice et lui donne raison contre son adversaire. Lequel d'entre nous, peut-être, n'a pas dans sa vie, au moins une fois, agi un peu comme le juge avec nos enfants, avec ses enfants, hein? Fatigué qu'ils insistent pour avoir quelque chose, ben vous finissez par leur donner ce qu'ils demandent. Ils vous rompent la tête. Ils vous rompent la tête. Et puis vous dites, mais quand est-ce qu'ils vont me laisser tranquille? Quand est-ce ou qu'il va me laisser tranquille? Finalement, cette attitude du juge n'est pas si inhabituelle que ça. Est-ce qu'elle se retrouve souvent chez nous? Ou est-elle encore, est-elle plus rare? Puisque Luc nous dit que le maître a raconté cette parabole à ses disciples pour leur enseigner qu'ils devaient prier sans faiblir, certains d'entre nous peuvent penser que cette parabole devrait se comprendre comme une allégorie. Nous sommes devant Dieu comme la pauvre veuve, et Dieu est comme le juge inique. Nous sommes comme la pauvre veuve désemparée, incapable de résoudre nos problèmes par nous-mêmes, de chercher en vain de l'aide. Nous n'avons pas d'autre recours que d'insister auprès de Dieu. Selon la logique de ce raisonnement, de cette allégorie, je dirais, si on l'apprend de cette façon, Dieu est le juge suprême. Dieu agirait comme le juge suprême. Je pourrais citer une fois encore Robert Badinas, qui dit dans son livre « Le conteur de paraboles » avec tout l'univers à gouverner, occupé à maintenir l'ordre dans le monde des astres et des anges, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu s'occupe de nous. Donc nous ne devons pas l'importuner, qu'en cas de force majeure. Ainsi, nous devons essayer d'arranger nos affaires par nous-mêmes, tant que nous le pouvons. Ne citons-nous pas souvent l'adage « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Et quand nous sommes désemparés, découragés presque, agissant un peu comme cette veuve, jeûnons, prions, veillons, insistons auprès de Dieu afin qu'il nous lâche enfin une miette des innombrables bienfaits qu'il garde comme un trésor dans le ciel. Pour ceux qui persévèrent dans la prière, dans la foi et qui seront finalement exaucés. Que pensez-vous de cette explication? Sommes-nous comme la veuve? Dieu est-il comme le juge suprême de la parabole? Écoutez la réponse de Jésus qui dit, au verset 5 du chapitre 18, le Seigneur ajoute ceci. Écoutez bien ce qu'il dit, ce mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis, ou dans d'autres versions, à ses enfants qui crient à lui jour et nuit? Est-ce qu'il leur les fait attendre? Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Comprenant bien, Jésus n'explique pas ces paraboles pour établir une comparaison entre Dieu et le juge, ou entre ses disciples, ses enfants, et la veuve. Ce que Jésus veut, c'est souligner les contrastes entre la façon d'agir du juge, entre la façon d'agir de la veuve, et quelle devrait être la façon d'agir de ceux qui veulent entrer dans ce royaume. Car le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est sa présence. Et ceux qui vont vivre en présence de Dieu. Quel meilleur représentant que Dieu lui-même ou Jésus, celui qui l'a révélé, pour représenter le royaume des cieux? Au risque de vous surprendre, peut-être, nous ne ressemblons ni à cette veuve, ni Dieu ne ressemble à ce juge unique et inique. Mais au contraire, nous sommes les enfants de Dieu. Car dans Jean 1, Verset 3, ne dit-il pas, « Voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous le sommes. Nous sommes donc la famille de Dieu. Nous sommes les frères et les sœurs de Jésus. La Bible se vertue à le répéter. Si vous lisez par exemple dans Romains 8, versets 16 et 17, Paul dit, « L'Esprit Saint lui-même donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. » Alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple. Et ces biens, nous les recevrons avec Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. Si Dieu est heureux de nous rendre à la fin des temps héritiers de ses biens, comment pouvons-nous croire qu'entre-temps, il ne s'intéresse pas à nos besoins actuels? Dieu n'a vraiment rien à voir avec le juge de la parabole. Ce personnage est une canaille, comme je l'ai dit, sans cœur et sans scrupules. Dieu, au contraire, est amour, justice, miséricorde, respect. La pauvre veuve n'a d'autre choix que de harceler le juge, je dirais, pour obtenir justice. Nous n'avons pas besoin d'importuner Dieu pour qu'il nous écoute. Nous n'avons pas besoin de faire pression pour le forcer à nous concéder un peu de ce qu'il a. Dieu dit, demandez et cela vous sera donné. Frappez et l'on vous ouvrira. Et quelque part d'autre, il ajoute, par contre, vous ne savez pas demander. C'est peut-être parce que nous ne savons pas demander que nous n'obtenons pas plus souvent ce que nous demandons. C'est vrai que l'Écriture est pleine de passages qui disent que Dieu, dans sa nature, aime, bénit, protège, aide et donne avec joie. En fait, Dieu se consacre entièrement à cette activité. Donner, protéger, aimer. Vous pouvez lire avec profit, quand vous rentrerez chez vous, des chapitres comme Lévitique 26, versets 3 et 6, Deutéronome 28, versets 2 à 12, ou encore 1 Samuel 12, versets 7 à 12. Dieu est donc un Père généreux. Dieu est donc bien plus qu'un Père Noël qui donne des cadeaux à une époque donnée, et si on a été sage. Nous sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas? Vous en êtes persuadé? Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est notre joie. Et nous sommes enfants de Dieu. Et c'est notre joie. Et nous avons des enfants aussi. Et c'est notre joie de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour leur faire plaisir. N'est-ce pas? Comment donc, imparfaits comme nous le sommes, nous faisons tout notre possible pour donner de bonnes choses à nos enfants et oserions-nous attribuer moins de comportement d'amour à Dieu. Moins de comportement d'amour à Dieu. Jésus nous appelle à notre générosité, je dirais, de parents humains imparfaits, pour essayer de nous faire comprendre la générosité de Dieu. Lisons cela dans Matthieu 7, versets 9 à 11. Lisons Matthieu 7, versets 9 à 11, ce que Jésus déclare parmi d'autres choses, je dirais, et à différents moments de son ministère, ce que Dieu est et ce que Dieu fait pour ses enfants. Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent? Vous êtes mauvais, et pourtant vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Alors ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donne de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Aucun père, aucune mère sur cette terre n'est parfait ou parfaite. Nous avons tous des défauts, des faiblesses, des manies, des mauvaises souvent. Mais pour la plupart, nous sommes capables de donner de bonnes choses à nos enfants. Nous ne pouvons donc pas attendre moins de la part de Dieu. Si un père ou une mère donne le meilleur à son enfant. Prenez le meilleur de ce qu'il donne et multipliez-le à l'infini et vous aurez une petite notion de la générosité de Dieu. Et c'est une générosité qui se manifeste pour tous ses enfants, ses petits-enfants. Je voudrais dire que si Dieu est heureux de... Pardon. Si Dieu, donc si Dieu est heureux de nous donner les choses sans que nous ayons besoin de l'importuner, il n'a donc vraiment rien à voir avec le juge de cette parabole. Nous devons donc aller à lui tel que nous sommes. Nous devons aller à lui quand nous en avons besoin. Nous devons aller à lui sans nous fatiguer. Ça ne veut pas dire que nous l'importunons. Simplement, exposons-lui nos problèmes, exposons-lui nos soucis, comme des enfants le font avec leurs parents. Le maître souvent l'a dit dans son ministère, il le répète, cet autrefois dans Matthieu 5, versets 3 à 12. Les Sadducéens disent que si tu es riche, c'est que Dieu te bénit. Et si tu es pauvre, c'est qu'il te maudit et qu'il ne t'aime pas. Mais Jésus dit, moi je vous dis, ils sont heureux ceux qui ont le cœur des pauvres. Parce que le royaume des cieux est à eux. Et vous connaissez toutes les béatitudes citées dans Matthieu 5. Dieu est donc à côté de ceux qui souffrent. Dieu est donc à côté de tous ses enfants. De quelle autre preuve avons-nous besoin encore? De quelle autre manifestation avons-nous besoin? Pour comprendre que l'amour de Dieu pour nous est répondre à son appel? Dieu nous dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Reste toujours disponible, comme le sont les jeunes enfants. Ne m'ignore pas. Ne laisse pas les soucis de la vie, les désirs, envie de réussir, envie de faire sa vie, envie de se construire, envie de s'amuser. Ne laisse pas toutes ces choses étouffer ma douce voix, la douce voix de Jésus. Viens à moi et dis-moi seulement que tu m'aimes. Car moi, je te donne avec générosité, avec un amour infini, tout ce dont tu profites, tout ce que tu as. Je voudrais ce matin que nous puissions un peu répondre à cet appel de Jésus. Lui dire, Seigneur, je sais que tu n'es pas ce juge unique, ce juge inique qui ne s'occupe pas de moi. Tu n'es pas ce juge inique qui pense que je ne suis qu'un numéro de dossier. Tu es celui qui m'a créé, celui qui m'aime, et c'est celui qui me prodigue chaque jour ton amour. Je voudrais qu'un peu avec la chanson que je vous invite à écouter maintenant, « Me voici », que vous laissiez imprégner par cette chanson et que nous puissions répondre à cet amour manifesté de Jésus, à cet amour manifesté depuis la nuit des temps, je dirais depuis l'éternité, et qui atteint son summum au calvaire, que nous puissions nous laisser imprégner par cet amour, avoir une image claire de la relation Père, enfant que Dieu établit avec nous. Écoutons donc cette chanson et ensuite nous conclurons ce moment de méditation.
Je t'appelle au secours parfois. Je t'appelle au secours parfois, au milieu de l'effroi. Aujourd'hui je ne demande rien, dans la fraîcheur du matin. Je suis venue te dire, je suis venue te dire que je t'aimais. Je t'aime, Seigneur. Les moussons viennent imparfaits, mais je sais que tu lis dans mon cœur et dans ses profondeurs. Je t'aime, Seigneur. Ton amour reste le même. Je suis venu te dire que je
Rappelons-nous d'une chose, que Dieu nous aime et qu'il est toujours désireux et prêt à exaucer nos demandes. Un peu comme il a fait pour Bartimée, que nous trouvons dans la suite de ce récit, qui, malgré tout ce qui l'empêchait de parler, de crier, a crié si fort que Dieu, que Jésus l'a entendu et a exaucé tout de suite sa requête de recouvrer la vue. Si nous avons des problèmes, un peu comme la veuve de la parabole, que nous pensons insolubles, si nous sentons que nous manquons de moyens, de patience, de courage, de ressources, gardons notre confiance en Dieu. Ne cessons de prier. Comme le dit Roberto Madenas dans son livre Le conteur de paraboles, acceptez que Dieu soit toujours plus grand que l'idée que vous en faites. Acceptez que Dieu soit toujours plus grand que l'idée que vous vous en faites. Priez comme si tout dépendait de votre prière. Et espérez comme si tout dépendait de Dieu. Ne vous découragez pas quand il semble que Dieu ne répond pas. Si vous n'avez aucune explication satisfaisante